Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Timothée, chapitre 1er, la deuxième partie du verset 13. « J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Voilà, ça c'est quand même une preuve magnifique d'humilité de la part de l'apôtre Paul de dire, eh bien voilà, en ce qui me concerne, eh bien, c'est véritablement une grâce si je suis chrétien et si je peux aujourd'hui annoncer l'évangile aux autres. J'aimerais, à travers un autre texte, ça c'est simplement pour nous situer dans notre position, on va ouvrir, si vous voulez, dans Luc chapitre 23. On va prendre ce texte, Luc chapitre 23. Et j'aimerais justement, à travers tout ce chapitre, à travers tous ces gens qui défilent autour de la croix, ou près de la croix, faire la démonstration d'un petit peu de ce qu'est l'humanité par rapport au sacrifice de Jésus, par rapport à ce que Jésus a accompli. Et nous voyons qu'il y a là toutes sortes de gens qui se pressent pour regarder, puisqu'il s'agit d'une exécution capitale, et chacun y apporte un petit peu de la nature, de sa nature, mais de la nature, en général, la nature pécheresse des hommes. Donc, je vais reprendre les textes au fur et à mesure, je ne vais pas lire le chapitre, puisqu'on va le repasser en entier, mais il y a ces réactions et ces attitudes devant Jésus, Marc, ou Luc plutôt, Matthieu, pardon, eh bien, nous donne un petit peu la même chose, mais nous avons justement, eh bien là, ce défilé de ces gens qui sont en train de contempler, qui sont en train de regarder, et j'aime bien ce texte de Paul quand il dit, mais moi je suis le premier des pécheurs, et Dieu m'a fait miséricorde, parce que finalement, eh bien, j'étais pas meilleur que les autres, et je crois que, d'une façon ou d'une autre, c'est un échantillonnage de ce qu'est l'humanité qui se presse à ce moment-là, à Golgotha, en train de regarder Jésus. Les uns y vont avec leurs réflexions, les autres avec leurs craintes, leurs peurs. D'autres vont proclamer finalement qu'ils reconnaissent en Jésus la grâce de Dieu, mais on va voir ça ensemble. D'abord, dans notre texte, il est donné dans ce passage, en tous les cas, il nous est parlé des juges, parce que c'est quand même eux qui ont été à l'origine finalement de la crucifixion de Jésus, c'est eux qui ont sanctionné ce qu'il fallait faire à Jésus. Et dans les deux premiers versets, il nous est dit qu'ils se levèrent et ils conduisirent Jésus devant Pilate, qui est le premier d'entre eux, parmi les juges, et ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte et empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. » Pilate l'interrogea, on viendra un peu plus loin. Donc, ce que nous constatons ici, c'est qu'il y en avait un qui était capable, qui avait le pouvoir judiciairement et juridiquement de mettre Jésus à mort, c'était Pilate, parce qu'il était finalement la haute autorité impériale, et lui pouvait prononcer sur la vie ou sur la mort d'un homme, ou d'un homme d'une manière ou d'une autre. Et voilà, dès que Jésus se trouve en présence de Pilate et puis de ses accusateurs, alors ils font se mettre tout simplement à l'accuser. Ce sont des accusateurs et de faux témoins qui sont là autour de lui, et ils vont prétexter finalement que Jésus est un homme séditieux, qu'ils l'ont trouvé, enfin c'est ce qu'ils disent en tous les cas, ils ont saisi dans ses discours et dans son comportement, eh bien, là, eh bien, le moyen de dire, voilà un homme qui est en train de prêcher la révolution, qui est en train de fomenter du trouble dans l'Empire, et c'est ainsi qu'ils vont le présenter devant Pilate. Quelle accusation ! Parce que Pilate était le représentant politique, et il n'y avait rien de tel, si on voulait se débarrasser de quelqu'un, et particulièrement de Jésus, de dire, regardez cet homme, il rassemble des foules, et ça c'est dangereux quand quelqu'un rassemble des foules, hein, et attire l'attention, et c'est souvent une ombre, finalement, aux politiques et à tous ceux qui sont investis de pouvoir. Alors ils vont l'accuser de dire, eh bien voilà, cet homme est un homme qui est en train de fomenter la révolte, et il va même jusqu'à empêcher de payer le tribut, c'est-à-dire l'impôt. Alors si c'est simplement sur le fait que Jésus un jour avait pris une pièce, parce qu'on lui avait posé la question, enfin, il avait demandé une pièce de monnaie, et on lui avait posé la question à qui devons-nous servir, eh bien Jésus avec beaucoup de sagesse, parce que ça c'est la sagesse de Dieu, prendra cette pièce, la retournera, et il dira, eh bien voilà, eh bien vous payez à César ce qui revient à César, et puis vous rendez à Dieu et ce qui revient à Dieu. Donc nous voyons que là les juges sont confrontés avec ce problème. Ce qu'on pourrait encore dire aujourd'hui, parce que vous savez, dans le monde politique et dans toutes les agitations qu'il y a dans notre monde et encore aujourd'hui, tout est bon pour se débarrasser des gens qui sont gênants et qui peuvent finalement bien faire de l'ombre. Et puis en ce qui concerne les accusateurs et les faux témoins, nous avons justement leur manifestation à travers le verset 5 et le verset 10 dans notre texte. Il nous est dit qu'ils insistèrent et ils dirent, ils soulèvent le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Nous voyons que là, eh bien, ils vont passer de l'accusation politique à quelqu'un qui se lève pour mettre des mauvaises idées ou de la mauvaise graine dans la tête des gens. Et puis au verset 10, où il est question encore de ces accusateurs, il nous est dit que les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et ils l'accusaient avec violence. C'est-à-dire qu'ils se servaient du rebondi qu'ils pouvaient trouver auprès de ces gens malfaisants pour mettre Jésus à mal. Et nous voyons que ces accusations vont être saisies dans les hautes sphères de la société religieuse. Ça, c'est quelque chose, hein. Remarquez, les derniers jours que nous avons vécu sur le plan politique et social, hein, ça n'a pas été laissé lettre morte au niveau de certains dirigeants et de certaines instances. Bon, on voit, comme si on veut bien prendre la chose en considération, que le livre de l'Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'on a fait à Jésus, c'est ce qui a été fait avant lui, c'est ce qui se fait encore, et tous les arguments sont bons, finalement, pour exciter, aigrir les esprits, amener la colère, et puis l'agitation, et si c'est possible, eh bien même la mort. En ce qui concerne Jésus, c'est le but à atteindre. Toujours en ce qui concerne ces accusateurs et ces faux témoins, eh bien, il nous en est parlé également à travers le verset 21 et le verset 23, quand il est dit ceci, et ils crièrent, crucifie, crucifie-le. Là maintenant c'est clair, hein. On va pas prendre d'autres arguments, il est pas jugé, mais on donne déjà la sanction. Crucifie, crucifie-le. Alors Pilate, naturellement, eh bien, va leur dire, mais quel mal a-t-il fait? Parce qu'en tant que juge, au moins, il faut qu'il puisse essayer de prendre quelque part le contrepoids de tout cela, puisqu'il sent bien qu'il y a de la haine, il y a de l'envie, il y a quelque chose qui est certainement très très mauvais. Alors il dit, mais je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort, je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Donc on voit que Pilate, jusqu'à un certain moment, eh bien lui se contente finalement eh bien d'une peine que nous pourrions considérer légère à côté de la mort. Je le châtierai. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Voilà, ça c'est la justice. C'est la justice des hommes, et c'est ce que Jésus a vécu. Hein. C'est dramatique, parce que on n'aimerait pas, peut-être pas, être jugé comme ça. Mais quoique, on se souvient encore récemment de ce fameux procès qui a fait scandale et qui scandalise encore aujourd'hui, que l'on est capable d'envoyer des gens pendant 2 ans, plus encore en prison, sur des dires, enfin toutes sortes de choses. Mais ça, on le voit à travers ces juges, on le voit à travers ces accusateurs, hein, tous ces faux témoins, on s'aperçoit que le monde n'a pas changé. On comprend que Jésus est venu pour rétablir la justice, et ainsi, eh bien là, remettre les choses un petit peu en place. Donc, les premiers qui apparaissent, ce sont les accusateurs, les faux témoins. Maintenant, il est question d'Hérode. Alors Hérode nous est présenté sous cet aspect. Il nous est dit qu'au verset 8, hein, vous pouvez suivre avec moi, « Lorsqu'Hérode vit Jésus », vous savez qu'il y a longtemps qu'il voulait le voir, hein, « il en eut une grande joie ». Alors on se demande quelquefois quel est le mobile de la joie des gens. Hein, et on sait très bien qu'il y avait quelque chose de sournois. D'ailleurs, Jésus l'appellera le renard, hein, il me semble. Hein, il rusait comme un renard. Alors il en eut d'une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Ben, c'était peut-être pas le moment. Mais peut-être qu'il espérait, comme d'autres, je pense à Judas, qui au moment où, voyant Jésus livré, prisonnier, eh bien, ferait éclater sa gloire en disant, ben voilà maintenant, hein, je suis vraiment le Messie. Mais peut-être que c'était aussi dans la mentalité d'Hérode de voir Jésus, puisqu'il n'était jamais venu voir Hérode directement Jésus. Mais là, le voyant prisonnier, le voyant dans une situation particulièrement difficile pour lui-même, dans une situation embarrassante, eh bien que là, il pensait peut-être qu'il avait entendu dire qu'il faisait des miracles, Jésus, qu'il ressuscitait des morts, alors il était certainement capable. Alors il avait au fond de lui-même ce genre de joie que l'on pourrait qualifier de très malsaine, hein, de pernicieuse, quelque chose qui n'est pas, en tous les cas, de bonne aloi. Et nous est présenté donc Pilate de cette manière. Il espérait donc qu'il ferait des miracles. Et voilà qu'au verset 9, hein, il lui adresse la parole, il lui adresse beaucoup de questions, et ils se sont autorisés, lui, à poser des questions, Pilate. Mais Jésus ne lui répondit rien. Et au verset 11, Hérode, avec ses gardes, étant donné qu'il n'a pas reçu de réponse de la part de Jésus, puisque Jésus n'a pas daigné, et il avait raison, je pense, de ne rien dire à cet homme, compte tenu de l'état d'esprit qui était derrière, il nous est dit qu'Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Donc voilà encore un autre type d'individu, de personnalité, pour lequel Jésus va mourir. Ah oui, parce que c'est ça. Jésus a donné sa vie aussi, autant pour ceux que nous avons vus précédemment que pour un homme comme Hérode. Et ça, c'est véritablement l'illustration du péché des hommes qui est tout empreint de mépris et de pouvoir illusoire. Ils pensaient avoir une incidence ou une influence sur Jésus, comme le texte nous le rapporte. Maintenant, c'est Pilate. Justement, je voyais bien qu'il y avait une relation. Donc, Pilate. Hein. Alors, Pilate, il nous a dit beaucoup de choses dans ce texte. De la manière dont il se comporte face à Jésus, dans la manière il va conduire ce procès qui n'est pas un procès, c'est un déni de justice. Et pourtant, s'il y en avait un qui devait être certainement, eh bien, là, au fait de la justice, qui avait le pouvoir de la justice, qui avait le pouvoir de faire vivre, eh bien, là, un innocent, c'était bien lui. Mais qu'est-ce qu'il va en faire de tout cela? Et à partir du verset 13, il nous est parlé là pendant un bon moment, pendant un paragraphe entier, du comportement de Pilate vis-à-vis de Jésus. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. » Donc il prend bien fait et cause qu'on accuse que le chef d'inculpation de Jésus, c'est une forme de révolution en quelque sorte, hein, une incitation à la révolte. Il n'en tient compte puisqu'il le redit. « Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je n'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. » Fait son travail, il constate et il dit, il remarque, eh bien, en demandant là quelques informations à Jésus, il se dit, mais il n'y a rien du tout. Et il ajoutera ceci, toujours Pilate, Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Il aurait fallu que le dossier soit un petit peu plus constitué. Alors il en tire la conclusion immédiate dans cette situation. Pilate en tire la conclusion que il dit ceci, je le relâcherai après l'avoir châtié. Donc ça, c'est la première chose. Il se dit, ben, on ne peut pas juger et on ne peut pas condamner, enfin, en tous les cas, on peut le juger, mais on ne peut pas condamner un homme qui n'a rien fait. C'est tout à fait logique. Bon, jusqu'ici, pas de problème. Et puis, voilà qu'il y a une histoire de tradition qui rentre en ligne de compte. Hein. Et je crois qu'à ce moment-là, Pilate veut essayer de sauver Jésus. Il s'aperçoit que derrière... Les plus coupables, enfin en tous les cas ceux qui sont coupables, c'est pas Jésus, mais ce sont ceux qui l'accusent. Et il nous est dit qu'à chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Et à ce moment-là, il savait très bien, hein, tous ces accusateurs. Il savait très bien qu'il y avait peut-être une situation à exploiter, parce que le but c'était véritablement de mettre à mort Jésus. Alors ils se sont écriés tous ensemble, mais fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » En ajoutant que dans ce texte, entre parenthèses, on peut dire cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Donc, en tous les cas, s'il y en avait un en comparaison qui méritait la mort et qui méritait certainement bien là d'être châtié, et d'autres en plus qui pouvaient sensibiliser Pilate, parce que Pilate, étant donné qu'il était détenteur du pouvoir civil et que cet homme avait été pris, mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville, donc c'était un brigand, est-ce que c'était un homme qui avait peut-être fait un coup de main contre les Romains? Alors d'autant plus, ça pouvait accuser fortement Barabbas et faire ce qu'il y avait à faire avec lui. Mais nous voyons que ces hommes, qui ont entendu ça, pensent que faut écarter maintenant Barabbas. Et Pilate, à ce moment-là, va leur dire, mais parce qu'il avait l'intention de le relâcher, j'ai le texte sous les yeux. Alors c'est à ce moment-là qu'ils se sont mis à crier, crucifie et crucifie-le. Vous voyez, je pense que là, nous voyons encore un des aspects de la nature humaine, c'est la mauvaise foi. Il y a les éléments qui sont réunis. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit être condamné, c'est celui qui véritablement est reconnu criminel. Et qui est notoirement reconnu criminel. Et il y avait ce qu'il fallait, c'est-à-dire que Barnabas était là. Mais nous voyons que les gens, dans leur aveuglement et dans leur envie de se débarrasser de Jésus, vont crier, et Pilate va insister, il va dire pour la troisième fois, on ne pourra pas lui reprocher à Pilate qui n'a rien fait. Mais je crois qu'il n'a pas été jusqu'au bout de sa mission. Et il aurait dû dire envers et contre tout, moi, c'est moi qui décide, parce que un oui et un non de la part de Pilate, ça changeait tout. Mais toujours est-il qu'il va insister, et il va dire, mais quel mal a-t-il fait? Et il redira devant ceux qui l'écoutent, mais je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Et il va tirer la conclusion, mais je vais le relâcher maintenant, après l'avoir châtié. Mais voilà que la foule est tellement chauffée à blanc et remplie de mauvais sentiments à l'égard de Jésus, c'est qu'ils se sont mis à pousser des cris en demandant qu'il soit crucifié. Et puis je crois que c'est un des passages de la Bible les plus tragiques. Quand on voit ce que l'homme est capable de faire dans son aveuglement, il nous est dit que leurs cris l'emportèrent. Ça, c'est terrible. Quand c'est la foule qui décide, et quand c'est les cris qui va faire basculer finalement qui va engager la mort d'un homme. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas faire de politique, mais c'est pas le propos, mais moi je pense que dernièrement c'est quand même les cris qui l'ont porté. Alors on est d'accord ou on n'est pas d'accord, il y a ceci, il y a cela, on avance, on recule, on a des perspectives où on s'attache au passé, je suis en train de constater comme vous-même d'ailleurs un peu tout ça. Bon, on n'est pas là pour décider de ce qui se passe, mais je crois que il y a des choses qui sont faites et qui s'est emportées par le suffrage du plus grand nombre, même s'il est mauvais. Et ça, c'est terrible. Ça n'a pas de rapport avec les situations politiques, mais je veux dire que c'est quand même quelque chose de terrible quand c'est comme ça. Parce que les hommes peuvent véritablement le regretter. Et d'ailleurs, les Juifs ont eu à le regretter dans cette situation. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et effectivement, ce qu'ils avaient dit, l'imprécation qu'ils avaient prononcée contre eux-mêmes, s'est réalisée. Alors, cette insistance à grands cris, ces cris qui l'emportent. Alors, Pilate, a simplement répondu qu'il serait fait comme ils l'ont demandé, tout simplement. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre. Donc Barabbas, c'était pas quand même un ange, et puis quelqu'un d'innocent, et qu'il réclamait et il livra Jésus à leur volonté. Vous voyez, ces mots sont terribles. Livrait Jésus à la volonté des hommes, à la volonté de se débarrasser de lui. Et c'était peut-être même ces gens-là qui, quelque temps auparavant, pas si longtemps que cela, étaient en train de crier à Jérusalem, Hosanna, béni soit celui qui vient du Seigneur. Pilate est un peu la caractéristique de cette... le faux du caractère des hommes quand ils sentent que la majorité se renverse, qui sent que lorsque véritablement les cris sont plus forts, c'est un peu l'image de la trahison et de la lâcheté. D'ailleurs, Pilate a toujours gardé un petit peu ce caractère. Je tiens compte qu'il a voulu délivrer Jésus. Je tiens compte qu'il a dit des choses en faveur de Jésus, contre la foule, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Et quand on dit à quelqu'un « t'es un Pilate », ou quand on parle de quelqu'un « c'est un Pilate », ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est bien clair. Et cet homme qui c'est pas rapporté dans l'évangile de Matthieu, mais qui là est prévenu par sa femme parce qu'elle a eu un songe qui l'a tourmenté dans la nuit. Et elle va lui dire, non mais tu n'as rien à voir avec cet homme, hein. Ne traite pas cette affaire, c'est quelque chose de dangereux. Moi j'ai été prévenu qu'il y a quelque chose qui est en cours. Et lui de demander à ses serviteurs de prendre une cuvette, de se laver les mains en disant, je suis propre, je suis libre du sang de cet homme. Ça, c'est encore à voir. Donc, après Hérode, c'est Pilate. Et puis il y a un personnage qui intervient, qui est aussi en quelque sorte... Eh bien, qui démontre un petit peu le caractère de notre humanité, c'est Simon de Cyrène. Et qu'est-ce qu'il nous est dit en ce qui concerne ce personnage? Alors que Jésus est sur la Via Dolorosa, hein, c'est ainsi que l'on a appelé cette montée qui va jusqu'au sortir de Jérusalem pour mener à Golgotha, il nous est dit que comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Je pense qu'à cette heure, Jésus était certainement dans un état d'épuisement. Et les soldats qui étaient là ont vu que peut-être le prisonnier, le condamné à mort, n'irait certainement pas jusqu'en haut de la colline. Imaginez-vous, je ne sais pas comment ça pouvait... nous, on nous représente des croix bien écarries, bien au carré, tout ça. Mais je pense que les croix, on leur faisait certainement pas des fioritures à tous ces condamnés à mort par crucifixion. On ne devait pas vernir le bois, hein, je pense pas. C'était certainement des pièces de bois énormes, difformes, et avec toutes ces aspérités et quelque chose de profondément lourd. Et on mettait ces gens, on mettait les condamnés à mort dessus. Donc on constate que Jésus n'ira peut-être pas jusqu'au haut de la colline. Alors on aperçoit qu'il y a un homme là qui revient des champs, hein, qui se trouve confronté avec le cortège. Et peut-être pour Simon, eh bien, il se disait, tiens, encore un autre condamné à mort, parce que ça devait arriver. Hein. C'était un temps de guerre, hein. On était en temps d'occupation. Puis des gens que l'on amenait au supplice, il devait y en avoir, hein, comme peut-être les arrestations pendant l'occupation. Hein. On entendait, enfin, moi, pas moi, mais peut-être, hein, des gens, on disait, ils disparaissaient, comme ça, on les emmenait, puis hop, on les mettait dans un train, puis c'était terminé si on ne les exécutait pas directement et tout de suite. Hein. Alors, c'était certainement ce spectacle hein, qui devait se faire, mais avec la méthode du temps. Et voilà que Simon, eh bien là, se trouve confronté, il voit, il regarde, il s'approche. Puis d'un seul coup, il va être interpellé. Et on va le charger de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Et c'est un petit peu l'image de cette humanité encore, dans une certaine forme de caractère. C'est-à-dire, là, ce que l'on saisit, ce que l'on prend comme ça, un petit peu au hasard, que l'on charge, et qui vont devoir porter quelque chose contre leur volonté. Ce qu'on n'a pas demandé là. On n'a pas demandé la vie à Simon. Hein. On lui a dit, est-ce que tu veux porter la croix? Non, on lui a dit, tu vas porter la croix de cet homme. Tout simplement. Remarquez, c'est une... dans la mémoire de Simon, quand il a dû y repenser plus tard, ou même dans ce qu'il était en train de vivre, en train de porter ses tours de croix, il devait se dire, mais qu'est-ce que ça doit être terrible d'être condamné à mort. C'est l'image de quelqu'un qui va porter et quelqu'un qui va échapper, parce que c'est pas lui qui va aller sur la croix. Mais néanmoins, c'est un petit peu l'image de bien des hommes auxquels on a investi quelque chose, on les a chargés, on a chargé leurs épaules, on a chargé leur dos, en disant maintenant, eh bien, ça va être comme ça que ça va se passer. Et je crois que, combien de fois le christianisme apostat, le christianisme qui n'a plus rien d'évangélique, qui a perdu l'esprit, combien de fois on a chargé les hommes d'une croix, on les a chargés d'obligations, on les a chargés de toutes sortes de choses, et on leur a dit, maintenant, tu vas suivre Jésus. Mais alors qu'il n'y avait aucune conviction, il n'y avait rien du tout, hein, on leur a demandé comme ça, et puis c'est une obligation. Vous savez, la foi, et je dirais l'engagement chrétien ne doit pas être une obligation. Ça ne doit pas être quelque chose, ça doit être quelque chose finalement qui doit venir de nous-mêmes. Et combien d'hommes, certainement, dans l'histoire de l'humanité, on leur a dit, ben voilà, parce que tes parents sont chrétiens, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a une tradition, eh bien maintenant tu vas devenir chrétien. Et ça a été quelquefois une véritable croix hein, pour certains portée. Vous savez, moi je pense, quand je lis ce texte, c'est une pensée, mais je pense à tous ces hommes qui, peut-être pour un sentiment de Dieu, et peut-être sincère, on les a cloîtrés, on les a mis dans les ordres, on leur a dit, voilà, tu seras prêtre, tu seras curé, tu seras ceci et cela, avec toutes les contingences que ça pouvait avoir. C'est quelque chose de terrible, hein. Et ça, c'est quand même la religion qui l'a fait. On a dit, ben voilà, tu vas suivre Jésus. Alors, il pouvait y avoir peut-être une aspiration à un moment donné, mais devant peut-être toutes les rigueurs que cela pouvait comporter, les obligations et les vœux qu'on leur a fait porter, c'était véritablement un martyr pour certains. Moi, je pense au célibat, par exemple. Alors qu'il y aurait des gens qui auraient pu très bien avoir une vie normale, et que l'on a imposé avec toutes les dérives et toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Des six noms de sirènes, vous savez, il y en a eu, et il y en a certainement encore. Ça, c'était encore une image, finalement, de ce que ce peut être, justement, cette rencontre. Et puis, nous avons également la grande masse de ceux qui sont là. Il y a ce que nous pourrions appeler la grande multitude de gens et de femmes. À travers le verset 27 et 31, il nous est dit qu'il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple. Alors parmi ces gens du peuple, moi je me plais à imaginer qu'il y avait certainement des gens qui hier avaient entendu ces paroles, avaient vu ces miracles, peut-être même avaient été guéris, je ne sais pas. Des gens du peuple et des femmes. C'est marrant parce que, enfin c'est marrant, la chose nous est fait remarquer des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Jésus se tourna vers elles et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez point sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Vous voyez cette population qui est là, de ces hommes, de ces gens, qui sont en train de regarder hébétés, nous pouvons dire, parce que vous savez, moi, je n'ai jamais assisté et je ne souhaite jamais y assister, mais ça doit être terrible d'assister à une exécution capitale. Il y a eu dans notre pays, encore jusqu'à une trentaine d'années en arrière, hein, la guillotine, la peine de mort. Hein, bon, ça se faisait dans les derniers temps dans les cours des prisons, mais on en parlait, je crois, dernièrement. Il y a un temps qui n'est pas encore si vieux que ça, ça se faisait en place publique, hein, pour l'exemple. Et ça doit être terrible. Hein. Imaginez-vous qu'on rassemblait les hommes, les femmes, on venait, on. Et même les enfants assistaient et envoyaient ce genre de spectacle. Vous savez, ça l'a marqué pour la vie. Hein. C'était une forme de justice. On se disait, ben voilà, ça sera valeur d'exemple. Et comme ça, les gens n'auront pas envie de. Ben, c'est une forme de pédagogie qui est cruelle et qui est terrible. Hein. Et ces gens sont là, ils suivent. Ils suivent, ils ne savent pas tellement ce qui va se passer. Enfin, ils se doutent parce qu'ils savent qu'il y a une condamnation qui était. Mais ils sont là et ils se frappent la poitrine. C'est comme s'ils sentaient eux-mêmes responsables de ce qui se passe. Ils sont malheureux, en quelque sorte. Et voyez-vous, cette foule qui est là, c'est en quelque sorte l'image de la commisération du peuple, des hommes, des femmes, indifféremment, qui, lorsqu'ils entendent parler de Jésus, lorsqu'ils entendent parler du sacrifice de Jésus, lorsqu'ils entendent parler du Christ, d'une manière ou d'une autre, sont pleins de ce sentiment que l'on appelle la commisération. Mais la commisération n'amène pas au salut. C'est un sentiment de pitié, c'est un sentiment où on se dit « mais quel malheureux !» C'est triste une chose pareille. Mais finalement, eh bien, ça ne va pas plus loin. On se frappe la poitrine. Vous savez que si vous avez été élevé dans une certaine religion bien connue, on nous a appris symboliquement à nous frapper la poitrine. Hein, je ne sais pas si ça se fait encore. Quoique, je remarque, j'ai entendu ça dernièrement, c'est que de plus en plus, les vieilles traditions reviennent. Hein. Ah oui, j'entendais ça. Il paraît que le jour du Vendredi Saint à Paris, il y avait au moins 8 à 10 ou 12 processions. Ça ne se faisait plus depuis longtemps. Hein. Je m'imagine avec les embouteillages ce que ça peut faire. Mais toujours est-il qu'il y en a même une procession qui a remonté les Champs-Élysées. Alors je me dis, mais oh là là, c'est assez redoutable une chose comme ça. Mais on revient, hein, peut-être que pour certains d'entre vous qui avaient un certain âge et qui avaient connu ça, on se dit, mais comme s'il y avait quelque chose de superstitieux, quelque chose de. Et là, moi, je crois que c'est un petit peu la caractéristique de beaucoup d'hommes. Oh, ils vont pas se mettre contre Dieu, ils vont pas se mettre contre Jésus, mais ils sont pris d'un sentimentalisme, ils sont touchés, mais dans l'âme, pas dans l'esprit. Commisération. Alors, on se frappe la poitrine, et puis Jésus leur dit, mais non, regardez, filles de Jérusalem, vous pleurez, mais c'est pas sur moi qu'il faut pleurer, mais c'est plutôt sur vous. Et c'est ça, la force de l'évangile. C'est pas de larmoigner sur une image du Christ hein, ou sur ce Christ de l'histoire. Mais c'est que si Jésus est venu, s'il nous est parlé de la croix, s'il nous est parlé de tout ce qu'il a accompli, c'est pas pour que nous pleurions sur lui, mais que nous pleurions sur nous-mêmes et disant « mais malheur à nous, nous sommes perdus si nous n'acceptons pas le message de son salut et que nous ne nous repentons pas de nos péchés ». Il y a des gens qui ne sont capables que de regarder dans ce sens. Ça, c'est une religion, en quelque sorte. C'est un aspect de la religion sentimentale, béate, en quelque sorte, émotionnelle. Mais ça ne sauve pas, Jésus leur dit. mais pleurez plutôt sur vous. Et vous direz que vous êtes heureux si vous n'avez pas d'enfants. Parce que d'ici quelques années, eh bien, vous allez voir ce que c'est d'avoir des enfants et des pères. En raison de la rigueur des temps, des événements, de l'histoire. Et puis après, il y a le peuple, encore le peuple, mais avec une particularité au verset 35. Il nous est dit ceci, une fraction du peuple. Le peuple se tenait là. Vous voyez, ça doit être encore d'autres gens. Et il regardait. Il y a cette fraction de l'humanité qui aime bien gratter, vous savez. Et là, on peut parler de curiosité malsaine. Ouais. Et autour de ce mystère de Jésus, autour de la crucifixion, autour de cela, eh bien, il y a des gens qui ont une curiosité qui est malsaine. Moi, je pense, hein, vous l'avez certainement vu, on a saisi quelques images quelquefois de ces processions en Espagne, en Italie, ou surtout en Indonésie. Je ne sais pas si vous avez vu ça à la télévision, mais je me dis, mais c'est terrible. Alors on prend un homme, enfin on le prend, non, on le prend pas parce que c'est lui qui le veut, hein. Et on lui met une croix, et puis c'est pas une production d'Hollywood, hein. C'est de la réalité, hein. C'est un fouet avec tout ce qui comporte, pour tout ce qu'il faut pour déchirer la chair. Et vous avez là, à un moment donné, c'est la flagellation, et vous avez ces gens là qui portent, hein, et puis qui se flagellent en portant une croix et tout ça, c'est terrible. Et vous savez que ça attire des milliers et des milliers de personnes pour ce spectacle. C'est affreux, hein. Eh bien, le jour où Jésus, ça s'est passé, eh bien, il y avait des gens aussi qui se régalaient, qui se nourrissaient de cette vision sordide. Vous savez, il y a rien de beau, hein, dans tout ça. Et on voit ce peuple qui est là. Et puis il y a les magistrats également qui sont là, puisque dans le même verset, il nous a dit les magistrats se moquaient de Jésus et disant il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Ces mêmes juges, on les retrouve encore. C'est comme s'il y avait un recoupement, mais on peut pas mettre tout le monde dans la même, hein, le même panier, que l'on dit, hein. Mais là, eh bien, finalement, ils sont là, ces magistrats. Et on peut peut-être deviner leur attitude, vous savez, de suffisance, de dire, il a joué au prophète. Ce pauvre paysan de Galilée qui est venu, bon, il a fait parler les gens, il a dit des choses, bon, soi-disant qu'il aurait fait des miracles, hein. Mais nous, assis à notre siège de juge, nous sommes quand même, eh bien là, des gens supérieurs. On ne va pas se prêter à ce genre de choses. Alors on se moque. Et on trouve les arguments pour se moquer finalement. Puisque on est en train de dire, mais puisqu'il a sauvé les autres, hein, ah oui, il nous a parlé de salut, il nous a parlé de ceci et cela, de merveilleux qui normalement descend du ciel. Alors, bien qu'il nous en donne la preuve, hein, s'il est le Christ. Ça, c'est de l'ironie. On parle de moquerie, mais je dis qu'il y a quelque chose plus que de la moquerie. Quelque chose de pervers derrière. Et vous savez qu'il y a parfois des moqueries où c'est encore... C'est pas de la bêtise, mais il y a de la méchanceté. Quand on dit bête et méchant, je crois que ça devait s'adresser à ces gens. Oui, parce que quelquefois, on se dit, bon, c'est de la sottise. Les gens, ils se moquent, bon, ils savent pas, et puis ça ne va pas très loin. Mais là, il y avait de la méchanceté. Il y avait quelque chose... En quelque sorte, il y avait une sorte de satisfaction non avouée, enfin même confessée, parce que là, c'est quand même dit, et de dire, eh bien, on va être débarrassé de cet homme. Il a voulu jouer au malin, il a voulu jouer à plus fort, hein, parce que il a dit ceci, il a fait cela, mais regardez aujourd'hui le spectacle. Hein. On peut se moquer de lui, et on prend ses arguments. Et vous savez, c'est souvent ces arguments que l'on trouve dans la bouche de gens religieux hostiles à Jésus et à l'Évangile. Vous avez certainement été confronté à un moment ou à un autre de votre vie avec parfois des gens proches de dans notre famille ou dans notre entourage qui, tout en ayant l'air de braves gens, nous ont sorti des choses qui, on a bien compris ce que ça voulait dire, mais c'était véritablement, enfin, si je prends un terme militaire, des scuds. Vous savez, hein, ça c'est bien envoyé et ça fait mal. Parce que ces pensées et tout ça pour détruire notre foi, pour nous mettre mal à l'aise, pour nous déstabiliser. Et c'est ce qu'il faisait en disant ces mots. On revient aux magistrats, qui eux-mêmes, eh bien, c'est la même chose, la moquerie. Et puis, on n'a pas parlé d'une catégorie qui représente aussi une fraction de l'humanité, ce sont les soldats. Au verset 36, il nous est dit ceci, « Les soldats aussi se moquaient de lui. » Alors, il semblerait que la moquerie soit véritablement le commun, hein, de ceux qui s'en trouvent à la croix, là, à ce moment-là. Donc, les soldats se moquaient, et s'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Alors les soldats, c'était des Romains, normalement. Et ils sont en train de le provoquer sur, finalement, eh bien, sa tentative politique qui a échoué. Hein, si tu es le roi des Juifs, alors nous, on aimerait bien, nous, les étrangers, mais tu te souviens quand même que nous sommes les occupants. C'est nous qui avons quand même la mainmise sur ton pays. Alors, si tu es le roi des Juifs, est-ce que tout le monde se sentait menacé? Les Juifs se sentaient menacés par Jésus. Le pouvoir religieux israélite se sentait menacé, mais les Romains se sentaient aussi menacés. Et les soldats qui étaient là, tout simplement en faction parce que c'était leur travail, c'est pas eux qui sont venus. On leur a dit, voilà, aujourd'hui, il y a une exécution, on a 3 condamnés à mort. Vous allez les accompagner, vous allez exécuter. Bon, ils auraient pu accomplir leur travail sans rien dire et sans rien faire. Mais ils sentent que il est nécessaire qu'ils ajoutent aussi, comme on dit, leur grain de sel. Et là, ils vont se moquer de Jésus en disant, en faisant cette réflexion, mais si tu es le roi des Juifs. Vous savez, le si tu es, ça ressemble un petit peu à ce que Jésus avait entendu un jour dans le désert, vous savez, le diable, qui lui a dit, si tu es le fils de Dieu. Vous savez, c'est sous le tapis. Hein, c'est sous-entendu. Ça ressemble aussi à ce que le premier homme dans le jardin d'Éden avait dit, le diable avait dit au premier homme. Ah, tu sais, si ceci et si cela. Vous voyez, c'est quelque chose de... On le retrouve à la croix, tout ça. On peut parler, en tous les cas, pour les soldats, de provocation et de bêtise. Si l'on peut, et ça fait partie, malheureusement, de la nature humaine. Et Jésus est venu mourir pour que les gens, eh bien, sortent de ce genre de marécage, parfois de provocation et de bêtise. Mais nous arrivons maintenant à une autre phase, parce que nous allons laisser ceux qui sont au pied de la croix pour aller voir ceux qui sont autour de la croix. Il y en a un, c'est l'un des malfaiteurs crucifiés au verset 39, et voilà comment il se comporte. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Il n'avait rien inventé, il avait seulement entendu de ce qui s'était dit en bas. Mais cet homme, quand il le dit, et c'est d'autant plus troublant, c'est que lui-même partage le sort de Jésus. C'est un homme qui a la même position que Jésus. Il est crucifié, il est en souffrance, il est là à quelques heures de mourir, et il dit ce qu'il ne faudrait pas dire quand on sait que, vous savez, il y a une solidarité dans la souffrance, elle n'est même pas là. Et ça, c'est aussi peut-être une image de tous les gens qui souffrent pour une raison ou pour une autre. Et il y en a, hein, des gens qui souffrent. Et au lieu de se solidariser avec les souffrances de Jésus, eh bien, se retourne contre Dieu et injurie Dieu. C'est ce qui se passe, hein. Vous savez, quand les gens, ça ne va pas un peu dans leur sens, c'est que la souffrance, le mal, la maladie, les étreints, eh bien, au lieu de dire et de baisser un petit peu quelquefois le ton, de dire, eh bien oui, je suis un homme comme un autre, c'est vrai qu'un jour je vais mourir, c'est vrai que je suis à l'hôpital, je suis là avec des traitements, avec des choses qui me font souffrir, mais au lieu de m'en prendre à Dieu, peut-être... Parce que certains, la souffrance, ça les amène à plus de douceur et plus d'humilité. Et d'autres, certains, ça les amène au contraire à se révolter. Un jour, une infirmière me disait qui assistait à beaucoup de décès dans l'hôpital, c'était à Angers. Et un jour, à sa grande stupéfaction, elle avait vu un homme, je l'ai peut-être déjà raconté, eh bien un homme qui est mort. Il était tellement excité au moment de sa mort, c'est qu'il levait les poings vers Dieu et son poing est resté comme ça. Ah oui, comme ça, comme pétrifié. Et ça l'a marqué, hein, cette infirmière, parce qu'elle s'est dit, mais c'est quand même curieux de mourir en n'ayant même pas voulu baisser, hein, finalement le bras, il était comme ça, en maudissant le ciel. C'est terrible, hein. Moi, je ne sais pas, pour nous, en tant que chrétiens, c'est sûr que notre attitude est forcément différente, mais on arrivait à mourir en maudissant Dieu pour sa mort, maudissant Dieu pour la vie. Mais ce que nous avons fait de notre vie, c'est que nous l'avons bien voulu. C'est pas Dieu qui est responsable. Et ça, c'est forcément quelque chose de terrible. Quelle image! Et lui va mourir en injuriant. Alors injuriant, hein, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Tout ce que cela peut être en utilisant le nom de Dieu, mais pas dans le bon sens. Pas pour le bénir, pour le maudire. L'injure. Et puis, nous avons un autre visage qui apparaît, mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » dira-t-il. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce sont des paroles formidables. D'ailleurs, elles nous sont chères pour nous en tant que chrétiens, parce que on se dit, c'est quelque chose, c'est un formidable testament qui nous est laissé à travers cette confession. Puisque cet homme reconnaît que finalement, s'il se trouve là, ce n'est que justice. Et il le paie le prix de ses forfaits, de ses crimes. Fallait-il qu'il attende cet ultime moment, à quelques heures de mourir, pour faire le point avec le Seigneur? N'aurait-il pas pu le faire avant? Non, pour certains peut-être non. Il y a certains hommes, certaines personnes qui, vraisemblablement, avaient-ils entendu parler de Jésus aussi, cet homme, ce larron-là. Mais il préfère encore courir à ses aventures, à ses méfaits, à ses forfaits. Et faut-il qu'il soit confronté avec Jésus à côté de lui pour dire « mais je reconnais finalement ». Et certains vont se convertir peut-être au dernier moment parce qu'ils seront, ils pourront pas aller plus loin. Tant qu'ils auront une certaine liberté, tant qu'ils auront encore la possibilité de se déterminer, ils se tourneront pas vers le Seigneur. Mais au moment où ils se sentiront pris, ils se sentiront là véritablement à l'extrémité de leur vie, alors à ce moment-là, eh bien, contrairement au premier, ils vont capituler. C'est pour ça que c'est un grand espoir aussi, moi je pense. Il y a des gens de nos familles, il y a des gens de nos amis, des gens que nous connaissons, nous aurons rendu témoignage, nous aurons fait ce qu'il faudra, ce qu'il fallait faire auprès d'eux, hein, et nous les avons pressés. Et tant qu'ils auront encore ce souffle de vie en eux, et qu'ils auront encore la possibilité de se déterminer, ils ne voudront pas entendre parler de Dieu. Et puis peut-être qu'au dernier moment, eh bien, avec vous ou sans vous, peut-être vraisemblablement sans nous, eh bien, au dernier moment, se souviendront-ils du témoignage qu'ils ont entendu, de l'évangile dont ils sont venus peut-être une fois ou plusieurs fois entendre, à travers peut-être une lecture de la Bible. Et se souviendront-ils de ce que Dieu a fait pour eux, de ce que Dieu a, de ce qu'ils ont reçu, de ce qu'ils ont entendu, et peut-être au dernier moment, parce qu'ils se sentiront pris, la mort sera imminente, et là ils se tourneront au dernier moment. C'est ce qui s'appelle être sauvé comme un travail au feu. Mais ils sont quand même au bénéfice du salut de Jésus-Christ, parce que Jésus aussi est mort pour ces gens-là. Et il va reprendre son compagnon en disant « Mais est-ce que tu ne crains pas Dieu, toi ? On a fait !» Nous, tous les deux, la même chose, mais ce juste, pourquoi est-il là? Vous voyez, il n'y avait pas que Pilate qui disait que Jésus est innocent. Même ceux qui étaient autour de lui pouvaient le dire. Alors il se tourne vers Jésus, lui dit, mais tu sais, moi je te demande une chose, ma vie est terminée, c'est fini. Je te demande de te souvenir de moi lorsque tu arriveras dans ton règne, dans ton paradis. Ouais. Ce sont des paroles merveilleuses. Si tous les hommes qui ont entendu l'évangile au moins une fois pouvaient dire ça avant de partir, de quitter ce monde... Souviens-toi de moi. Vous voyez que cet homme n'a plus d'espoir sur la terre puisqu'il parle du règne de Dieu. Il parle du paradis. Il sait que maintenant c'est terminé. Et s'il était resté, si le Seigneur l'avait fait descendre de sa croix, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait peut-être retourné encore à ses forfaits. Ouais. Mais là, il aura une autre position, une autre place. Et Jésus tout simplement de lui répondre, mais aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Ouais. C'est quelque chose, hein, ça. Et puis il y a le centenier aussi, dont nous voyons l'attitude. Le centenier, voyant qu'il était ce qui était arrivé, puisqu'il y avait les ténèbres qui sont venues sur la terre, il nous est dit que le soleil s'est obscurci, il nous est dit que le temple de Dieu s'est déchiré, ça il ne l'a pas vu, c'est écrit quand même, mais en tous les cas il ne l'a pas vu ce centenier, mais toujours est-il qu'il y a eu toutes sortes d'événements, il a entendu ces paroles de Jésus, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », ça il l'a entendu. Parce que lui, il était au pied de la croix, il était bien placé, certainement, parce que c'est lui qui devait diriger les soldats en tant que gradé. Alors le centenier, voyant qu'il était arrivé, glorifia Dieu et dit, mais certainement cet homme était juste, vous rendez compte, hein, un païen qui est là parce qu'il est en faction, parce que c'est son travail, qui voit ce qui se passe autour de lui, qui entend les paroles de Jésus, qui prie son père de recevoir, qui a dû entendre aussi certainement les paroles de ce brigand. Et cet homme, eh bien, il n'a qu'une expression, il n'a qu'une attitude, c'est qu'il glorifie Dieu. C'est un païen. Et il se dresse vers le Seigneur en disant, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose d'extraordinaire au pied de la croix. La croix n'est jamais vide. Hein. La croix, elle est chargée de puissance, elle est chargée de mystère. Elle est porteuse d'espérance. Et lui, il va saisir cette espérance. Et il dira, mais cet homme était juste. Et là, je crois que c'est ce qui bouleverse. C'est la vue de Jésus. C'est la manière dont Jésus est mort. C'est la manière dont il remet son esprit entre les mains de son Père. Parce qu'il n'y a pas une parole qui sort de la bouche de Jésus pour proférer des mauvaises choses. Il dira, mais pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Tout est accompli. Il a entendu ces mots, cet homme. Et lui, pour lui, il se dit, mais voilà, c'était le juste. C'était pas injuste. C'était le juste. Et là, il fuit. Il se convertit littéralement. Lorsque les yeux de cet homme s'ouvrent. Et puis, puis il y a les spectateurs du verset 48, tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle. Alors voilà, on revient toujours, toujours la même chose. On revient à la foule et ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, il semblerait que la vue de ce qui est arrivé, de ce qui s'est passé, a impressionné gravement, profondément les gens. Eh bien, ces gens ne sont pas restés au pied de la croix. Il nous est dit qu'ils s'en sont retournés, ils sont repartis, et ils se frappaient la poitrine. Donc, il y a quand même quelque chose qui montrait qu'ils étaient saisis de compunction. C'est-à-dire que c'est ce sentiment à l'intérieur de nous-mêmes, comme s'il y avait une honte, comme s'il y avait un sentiment, mais d'une grande force de culpabilité. De dire, mais qu'est-ce que nous avons fait? Et vous savez, c'est souvent quand les choses sont faites et irréversibles qu'on s'aperçoit qu'on était trop loin. Qu'est-ce que nous avons fait? Il y a peut-être des gens qui auparavant étaient en train de dire crucifie, d'autres qui étaient en train de se moquer, mais là, à ce moment-là, devant les phénomènes naturels, devant ce qui se passe, alors on se frappe la poitrine et ces gens sont bouleversés. Le remords, le regret, la réflexion, et espérons que cette réflexion les amène à se repentir. Ce qui n'est pas garanti à chaque fois, parce qu'il y a bien des gens qui réfléchissent. Vous savez, les gens qui viennent dans nos salles écouter l'évangile, où là, l'action du Saint-Esprit, l'action de la parole de Dieu, réfléchissent. Ils se disent, j'ai entendu des choses aujourd'hui. J'ai vu des choses aujourd'hui. Le témoignage de ces gens que l'on appelle les chrétiens, ce que nous sommes, à travers peut-être certains vont être touchés profondément à l'imposition des mains. Ils vont subir comme une pression du Saint-Esprit. Ils vont réfléchir, mais heureux seulement ceux qui ajouteront à leur réflexion la repentance et la conversion. Parce que vous savez qu'il y en a beaucoup qui ont réfléchi. Et puis la réflexion ne les a pas amenés beaucoup plus loin que où ils en étaient. Et puis je termine par les amis de Jésus, à la suite de ce verset, c'est le verset 49. Tous ceux qui connaissaient Jésus, donc la connaissance. Connaître Jésus, ça veut dire ce que ça veut dire. On peut parler des disciples, on peut parler des suivants, on peut parler de tous les uns et les autres. Et les femmes qui l'avaient accompagné, parce qu'elles étaient là aussi, hein, depuis la Galilée, se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Pour l'instant, c'est un petit peu là, c'est figé. On est à la croix. Bientôt, des temps nouveaux vont se manifester. Ils regardent ce qui se passait, ils attendent qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est pour l'Église. C'était pour ces hommes. Oh, ils sont bien déconcertés, tout cela. Les disciples et puis les femmes qui accompagnaient Jésus, ils ne savent plus quoi penser de cette situation. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous allons devenir? Notre Maître, notre Seigneur est mort. On va bientôt, d'ici quelques heures, le mettre dans le tombeau. Et qu'est-ce que nous allons devenir? Lui qui parlait, lui qui nous accompagnait, lui qui faisait tant de choses. Et comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Alors les femmes se préparent, parce que ça va être les premières à réagir. Parce qu'on va mettre Jésus dans le tombeau. Et puis au petit matin, en tous les cas, quelques-unes vont voir ce qui va se passer. Et c'est ces femmes qui vont être là les communicatrices de ce message de vie de la résurrection. Et puis après viendra les disciples qui vont se réveiller. Alors ça va véritablement susciter toutes sortes de questions. Moi je pense aux disciples d'Emmaüs, je pense à Thomas et puis les uns et les autres pour finalement se retrouver ensemble, quelques jours après, dans la chambre haute. Alors là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus est ressuscité et maintenant la vie va couler sur la terre, va se manifester précisément pour des juges iniques, pour des magistrats infâmes, pour des Barnabas, Barsabas, c'est ça, excusez-moi, pour cette foule inconsciente de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, pour des soldats, pour ce larron, pour celui-ci, pour celle-là, etc., etc., tout autour. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est ça la croix. C'est ça la crucifixion, c'est ça Pâques. Parce que vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est ce que j'expliquais ce matin à Redon, Pâques, ça veut dire passage. Et avec la croix, ça ne s'arrête pas à la croix. C'est un passage pour aller vers une autre vie. Et c'est ça ce que nous avons besoin, finalement, de communiquer au monde. Qu'est-ce qui restera encore ce soir de la fête de Pâques pour les gens qui vont rentrer chez eux, qui vont reprendre la route pour retourner à Paris, dans les grandes villes? Ils vont dire, nous avons passé un bon week-end. Si c'est que ça. Si c'est simplement là, eh bien, un temps qui est marqué dans le calendrier pour passer un bon week-end, c'est pas ça. Il y a bien d'autres choses. Et nous sommes peut-être un petit nombre, comme les disciples d'hier, pour être les porteurs de cette bonne nouvelle. Parce que Pâques, c'est un passage. Et c'est le passage par excellence, finalement, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'erreur à la vérité, de tout ce qu'il peut y avoir de sordide dans le cœur humain quand il est encore à l'état brut, pour en faire finalement un cœur qui croit en Dieu, qui adore Dieu et qui glorifie Dieu, parce que finalement il est le Dieu de la vie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Voyez toute cette population qui est là, c'est le reflet de tout ce qui se passe autour de nous. Et puis n'allons pas juger ceux qui sont autour de nous, parce que nous étions hier de leur nombre, et Dieu nous a fait miséricorde pour que nous entendions ce message et que nous puissions le croire pour devenir finalement, eh bien là, des communicateurs de cette bonne nouvelle. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne à nous de réaliser que notre place aujourd'hui, c'est d'être des témoins de Jésus-Christ pour porter, eh bien, ce que nous avons entendu et ce que nous savons. Merci Seigneur. Amen.